Bonjour à tous les auditeurs de Neptune FM et bienvenue dans votre émission Regard sur le passé. Elle vous est proposée par le service patrimoine de la mairie de l'Île-Dieu afin de vous immerger dans l'histoire de l'île pour vous changer les idées en cette période difficile. Moi c'est Pauline et je vous propose aujourd'hui de continuer notre exploration du Moyen-Âge insulaire avec l'histoire du vieux château. Quand a-t-il été construit? Pourquoi est-il placé sur la côte sauvage? Quel était son rôle? Pour comprendre tout ça, rendez-vous au XIVe siècle. Comment vivait-on à l'Île-Dieu à l'époque? Les rares textes évoquent presque 200 chefs de famille, soit une population insulaire d'environ 1000 à 1500 personnes. Ce sont des paysans, ils vivent essentiellement de l'élevage de moutons, de la culture des céréales et de quelques vignes. Pour améliorer leur ordinaire, les îlets pratiquent la petite pêche, soit depuis la côte, soit avec les rares embarcations qu'ils possèdent. Cependant, l'île est située sur une route maritime fréquentée et nombre de navires s'y arrêtent pour s'y abriter ou s'y ravitailler. Les taxes payées par ces navires commerciaux profitent surtout au monastère Saint-Étienne ou au seigneur de la Garnache, pas tellement aux îlets. Créée vers l'an 1000, la seigneurie de la Garnache est toujours aux mains des descendants de Gauthier et Gosselin, dont on a parlé la dernière fois. Ils portent maintenant le nom de Belleville, et ces seigneurs dirigent une vaste part des côtes du Bas-Poitou, autrement dit une partie du nord-ouest de l'actuelle Vendée. Lorsque Maurice V de Belleville meurt sans héritier, en 1320, c'est sa sœur Jeanne, elle-même veuve, qui devient alors dame de la Garnache et maîtresse de l'Île-Dieu. Jeanne de Belleville a eu une vie mouvementée, digne des romans historiques les plus épiques. Mais je laisse le soin à Annabelle de vous raconter toute son histoire qui est passionnante. Pour le moment, contentons-nous d'apprendre que Jeanne se remarie en 1328 avec un seigneur breton, Olivier IV de Clisson. Leur mariage ne commence malheureusement pas sous les meilleurs auspices. En effet, l'année 1328 voit la mort, sans héritier mâle, du roi de France Charles IV le Bel. C'était le troisième fils de Philippe le Bel et ses frères aînés avaient eux-mêmes régné et péri, sans avoir de fils. Charles a pourtant un neveu. Édouard Plantagenet, c'est le fils de sa sœur Isabelle. Problème, le jeune homme est déjà roi, roi d'Angleterre. Or, la majorité des pères du royaume est hostile à l'idée d'être gouverné depuis l'étranger par un homme qu'ils connaissent peu. Paris ne deviendrait-elle pas vassale de Londres si le jeune Plantagenet accédait au trône? Mais le défunt roi a aussi un cousin, Philippe de Valois, qui occupe déjà les plus hautes fonctions à Paris. Le 1er avril 1328, c'est lui qui devient roi, avec l'accord des plus hauts seigneurs du royaume, sous le nom de Philippe VI. Son rival, Édouard III, est aussi son vassal pour le duché de Guyenne. C'est ainsi que l'on appelait au XIVe siècle la région de Bordeaux, qui appartient aux Plantagenets depuis 200 ans, depuis leur union avec la duchesse Aliénor d'Aquitaine. C'est avec beaucoup de réticence qu'Édouard prête hommage à Philippe en 1329. À l'époque, aucun des deux monarques n'a les moyens de financer une guerre. Mais dans les années qui suivent, on voit se tisser les alliances et se durcir les positions, ce qui, petit à petit, mène au début des hostilités qui sont déclenchées en 1337. La guerre de Cent Ans vient de commencer. Elle ne s'achèvera qu'en 1453, 116 ans plus tard. L'un des premiers théâtres des affrontements est le duché de Bretagne, en pleine crise de succession à partir de 1341. L'Île-Dieu peut sembler bien éloignée de ses considérations politiques. Et pourtant, sa position entre Nantes la Bretonne et Bordeaux l'Anglaise peut se révéler un atout précieux pour le camp dont les navires disposent de ce port de relâche. Nous ne savons pas avec certitude quand la construction du château a débuté, mais tout indique qu'au moment de la guerre de succession de Bretagne, il était achevé ou presque. Aussi, autorisons-nous un bref retour en arrière pour mieux comprendre l'origine et le rôle du château. On l'a vu tout à l'heure, au début du XIVe siècle, de nombreux navires croisaient dans les parages de l'île. Ils faisaient relâche et s'y ravitaillaient moyennant finances. Mais tous les bateaux payaient-ils leur écho? Il était bien loin le seigneur de la Garnache et il n'y avait sur l'île aucune marque de son autorité. Le premier rôle du château sera sans nul doute symbolique. Il est le siège du pouvoir seigneurial. Ses tours et ses courtines sont là pour rappeler à tous que l'île-Dieu n'est pas un territoire ouvert, mais la propriété du puissant seigneur de la Garnache. La position géographique du château n'est donc pas anodine. Il est construit sur la côte pour être visible de la mer et donc des navires qui y circulent. On a même pu observer, sur la tourelle de guet qui subsiste encore de nos jours, un emplacement pour mettre un fanal face à l'océan, rendant ainsi la position du château visible même de nuit. Bien entendu, le rôle du château n'est pas que symbolique ou dissuasif, et sa position sur la côte rocheuse a été choisie avec soin par le seigneur qui en a ordonné la construction. Avec ses récifs et ses courants, la côte sauvage était très difficile d'abord pour les navires médiévaux, à plus forte raison s'ils ne connaissaient pas les lieux. Cela garantit au château une certaine invulnérabilité du côté de l'océan. De fait, dans la tour sud du château, seule une ouverture de tir est tournée vers la mer, et son angle de tir semble avoir été étudié pour abattre une barque au moment précis où elle négocie le passage entre deux récifs. Qui plus est, l'édifice est bâti sur un rocher entouré par la mer à marée haute, formant ainsi des douves naturelles profondes de plusieurs mètres. Un pont-levis permettait d'isoler la forteresse de la terre ferme et de contrôler ou empêcher les entrées. Si la côte sauvage était terriblement dangereuse pour les navires du Moyen-Âge, la côte sableuse, elle, était vulnérable. Face au continent, plusieurs plages sont assez longues et assez dépourvues de récifs pour permettre à des vaisseaux d'une certaine importance d'y aborder. Or, au XIVe siècle, l'artillerie n'existe pas encore et il est donc impossible d'empêcher de tels débarquements. Nous ne sommes bien sûr plus dans le cas de figure où un navire de commerce s'arrête discrètement pour grappiller quelques palourdes et remplir ses réserves d'eau sans s'acquitter des taxes. Nous sommes dans le cas de figure où une troupe importante, sous un commandement coordonné, vise à s'emparer de l'île et à s'y établir durablement afin de bénéficier de sa position et de ses ressources. Et nous rejoignons là le contexte politique et militaire des prémices de la guerre de Cent Ans que j'ai présenté tout à l'heure, et qui s'est traduit sur notre île par une insécurité croissante et le passage en mer des troupes du roi Édouard III d'Angleterre. Alors comment ce château fort a-t-il concrètement contribué à la défense de notre île ? Tout d'abord, ce n'est pas une coquille vide. Il abrite une petite garnison et il est commandé par le gouverneur de l'île qui est le représentant du seigneur de la Garnache. Les soldats assurent le guet depuis le château, mais assurent aussi des patrouilles, notamment pour surveiller ce que font les navires qui s'abritent sur nos côtes. La présence même du château a pu décourager certains ennemis qui, en l'observant depuis la mer, ont estimé que l'assiéger serait trop long ou trop coûteux. Et si malgré tout, une troupe bien armée débarque sur l'île, sur la côte sableuse, le château doit se préparer à subir un siège. En effet, tôt ou tard, si les ennemis veulent s'emparer de l'île, il leur faudra soumettre le château et ainsi verrouiller leur prise. Depuis la tour de guet, les soldats en faction au château ont pu voir passer les navires. Et il voit s'avancer la troupe ennemie. Le temps est compté pour le gouverneur qui doit organiser la défense du château. Il mobilise les soldats, il évalue les réserves. Le château dispose de 3 citernes d'eau potable qui se remplissent avec la pluie. Il y a aussi un assez grand cellier, de quoi tenir plusieurs semaines. Par contre, le château est exigu. Il y a peu de chances qu'il ait pu accueillir toute la population de l'île en cas d'attaque. Il y a fort à parier que celle-ci se réfugie alors sur la pointe du Châtelet, qui est voisine du château et qui surtout dispose encore de ses remparts de l'âge du fer, évoqués l'autre jour par Annabelle. Notons d'ailleurs qu'à la fin du Moyen-Âge, le seigneur avait autorisé les îlets à former une milice de garde-côtes et ils venaient justement s'entraîner au tir au Châtelet. Les habitants de l'île ne sont donc pas totalement livrés aux ennemis. Et d'ailleurs, ces derniers, s'ils souhaitent s'établir durablement, n'ont pas vraiment intérêt à se livrer à des massacres sur la population. Ils vont bientôt avoir besoin de ces paysans pour exploiter les terres. Au château, le siège s'organise. Les assaillants ont bloqué toute sortie et tentent de forcer l'entrée par tous les moyens. Cependant, on dit parfois que pour un homme au rempart, il en faut 20 pour mener l'attaque. C'est une façon un petit peu exagérée de dire qu'un défenseur a l'opportunité d'abattre plusieurs assiégeants avant d'être lui-même tué. C'est dire si mener un siège est coûteux en vie humaine, mais aussi coûteux tout court. La logistique pour amener les hommes, les nourrir, les armer, amener l'armement, c'est énorme, surtout quand on attaque une île. Bien souvent, au bout de quelques semaines, voire de quelques jours, les commandants ennemis estimaient que le jeu n'en valait pas la chandelle et renonçaient à prendre la forteresse et à investir l'île. Ce que je viens de vous décrire, c'est tout à fait représentatif du fonctionnement, de l'utilité d'un château fort à la fin du Moyen-Âge. La seule particularité pour l'île-Dieu, c'est que notre territoire est une île. Mais systématiquement, lorsque des assaillants veulent s'emparer d'un territoire, qu'il s'agisse d'une île, d'un village, ils vont aller faire le siège du château qui protège ce territoire. Ils ne vont pas juste s'installer comme cela. On ne fonctionne pas comme ça au Moyen-Âge. Alors finalement, qui a fait construire ce château et quand exactement a-t-il été bâti ? Malheureusement, les textes sont trop rares pour affirmer quoi que ce soit. Cependant, les informations dont nous disposons indiquent que le chantier aurait débuté dans les années 1320, sans doute commandité par Jeanne de Belleville, peut-être même par son frère Maurice V avant son décès. Ce qu'il faut retenir, c'est que la forteresse était en travaux à l'époque où la seigneurie de la Garnache était gouvernée par Jeanne et par son époux Olivier de Clisson. Et ça, c'est très intéressant, car Olivier a fait construire ou aménager d'autres châteaux sur ses terres bretonnes. Il y a donc tout lieu de croire que l'équipe des tailleurs de pierre qui a dirigé le chantier du château de l'Île-Dieu était une équipe expérimentée, et la conception même de notre petite forteresse indique un savoir-faire certain, tant dans l'organisation des éléments défensifs que dans la solidité des maçonneries qui ont su résister à l'épreuve du temps et aux nombreuses tempêtes. Olivier de Clisson meurt en 1343. On pense qu'à son décès, le château était achevé. En effet, Olivier est mort dans des circonstances bien particulières. Il a été exécuté pour traîtrise par le roi de France Philippe VI de Valois, et ce dernier, à la mort d'Olivier, fait main basse sur les possessions de la famille. On sait qu'il n'a pas fait terminer le vieux château. Le premier gouverneur de l'île est nommé à ce moment-là et il est donc directement sous les ordres du roi de France. Il restera en poste jusqu'en 1355. Cette année-là, une troupe anglaise débarque à l'île-Dieu. Elle appartient au prince noir en personne. C'est le fils aîné, et donc l'héritier, du roi Édouard III d'Angleterre. Et cette troupe est commandée par Robert Knolles, un capitaine dont la réputation de cruauté n'est plus à faire. Knolles parvient à s'emparer du château, mais on ignore comment. Tout ce que nous savons, c'est que le gouverneur du roi de France et ses hommes vont renoncer au combat et quitter l'île, l'abandonnant ainsi aux Anglais. Elle restera aux mains des hommes rouges pendant 37 ans. Les hommes rouges, c'est ainsi que l'on surnommait les soldats anglais à l'époque, qui portait un habit rouge aux couleurs de la famille Plantagenet, la famille royale anglaise. La tradition locale leur attribue de nombreuses exactions qu'ils auraient commises sur l'île-Dieu, où ils ont laissé la réputation d'hommes brutaux. Au cours des longues années où l'île a été possession anglaise, il y a eu plusieurs attaques. Ce sont les Français qui s'efforçaient de reprendre l'île, mais toujours en vain. Il n'y a pas eu de combat lorsque l'île a finalement été réintégrée au royaume de France. Nous sommes alors en 1392. La seigneurie de la Garnache est passée au fils de Jeanne, Olivier V de Clisson. Chevalier de renom, il occupe alors la prestigieuse fonction de connétable, autrement dit de général en chef des armées du roi de France. C'est Charles VI, le roi de France, l'arrière-petit-fils de Philippe VI. Quant à Olivier, il est le successeur du célèbre Bertrand du Guesclin. Lorsqu'Olivier redevient le maître de l'île-Dieu, il veille à remettre le château en état. Dommage, nous ignorons si les travaux ont été d'importance ou s'il ne s'agissait que de modifications mineures. Malgré quelques attaques anglaises, la guerre de Cent Ans n'est pas encore terminée, le XVe siècle sera moins agité à l'île-Dieu que le précédent. Alors comment s'organiser la vie au château en temps de paix ? En plus d'être le siège de la garnison, le château est la résidence du gouverneur, le représentant du seigneur, et ses prérogatives ne sont pas uniquement militaires. Le gouverneur perçoit l'impôt, en nature. Il reçoit moutons, blé, poulet, vin. Il garde ce qui est nécessaire à la garnison et à son usage personnel. Il transmet le reste au seigneur. Le gouverneur est chargé de rendre la justice. Il punit les voleurs, les contrebandiers et les braconniers. C'est d'ailleurs au XVe siècle qu'est aménagée l'unique cellule qui fait office de prison au château. Petite anecdote, un des premiers pensionnaires sera d'ailleurs le gouverneur qui l'avait fait aménager. Lors du désordre occasionné par une des attaques anglaises, il avait mortellement blessé un de ses administrés. Le gouverneur sera ensuite envoyé sur le continent pour y être jugé et il sera amnistié. Alors revenons au château. En plus d'être le siège du pouvoir seigneurial, il abrite une petite forge. Il abrite aussi un four à pain. La taille de ce four laisse supposer qu'il était utilisé par une partie de la population insulaire. Il s'agirait donc d'un four banal. Le mot banal, ça vient de banalité, le mot qui désigne l'impôt qu'il faut régler pour pouvoir utiliser ce four. En fait, le boulanger gardait une partie des pains crus qui lui étaient fournis par les paysans qui souhaitaient les faire cuire dans le four banal du château. Le château se poursuit après le Moyen-Âge. À la Renaissance, il devient indispensable de le moderniser afin de l'adapter à l'artillerie. Plus efficaces et plus sûres, les canons sont devenus des armes incontournables de la guerre de siège, que ce soit pour l'attaque ou pour la défense. Dans les deux tours du château, on remplace les étroites archères par des canonnières. Et surtout, une ceinture défensive en demi-étoile est bâtie devant la forteresse. Les cinq branches de la demi-étoile sont appelées des bastions, et des canons sont disposés dans chacun d'entre eux. La forme en étoile permet d'une part de multiplier les angles de tir pour que les ennemis ne puissent profiter d'aucun angle mort pour progresser vers le rempart. D'autre part, cette forme rend possible les tirs croisés, c'est-à-dire que chaque bastion peut défendre son voisin. En outre, le sol est plus haut à l'intérieur de la ceinture bastionnée. Ce qui signifie que les canons ennemis ne peuvent réaliser une brèche, en tout cas pas de haut en bas, car la terre à l'intérieur du mur va les maintenir dans leur partie la plus basse. Technique qui naît en Italie au début du XVIe siècle et qui se développe en France après les guerres d'Italie. Les seigneurs français qui y ont combattu ont eu l'occasion d'éprouver par eux-mêmes l'efficacité de ces fortifications nouvelles et vont les faire copier sur leur propre château. À l'île-Dieu, les bastions datent du milieu du XVIe siècle et sont très rapidement mis à l'épreuve. En effet, en 1551, une troupe d'un millier de soldats espagnols débarque sur l'île. Leur roi, Charles Quint, dirige le Saint-Empire germanique en plus de l'Espagne, Autrement dit, il possède l'Espagne, mais aussi une partie de la Belgique et des Pays-Bas actuels. Il tient ainsi le royaume de France en tenaille. L'île-Dieu, située à mi-chemin sur la route maritime entre l'Espagne et les Pays-Bas, serait un port de relâche idéal. Aussi, les soldats de Charles Quint ne sont-ils pas venus pour faire de l'esbrouf. Armés de canons, les mille Espagnols assiègent le château pendant un mois. Malgré leur armement performant, ils n'arriveront jamais à franchir les bastions du château et finissent par renoncer. Mais l'artillerie continue d'être perfectionnée. Et finalement, au milieu du XVIIe siècle, les canons deviennent assez précis et assez puissants pour atteindre le château par la mer. Le problème, il n'a jamais été conçu pour subir une attaque maritime. Jeanne Pélagie de Rieux, alors dame de l'île-Dieu, préfère adopter une nouvelle stratégie de défense. Elle entreprend la construction de petites batteries d'artillerie sur la côte sableuse pour repousser directement les assaillants à la mer. Les soldats sont mobilisés vers ces nouveaux forts et le gouverneur de l'île est installé à Saint-Sauveur, la capitale. Dépassée par le coût de son entreprise, Jeanne Pélagie va revendre l'île-Dieu. C'est l'époque où le château est totalement abandonné. Jusqu'à ce que, quelques décennies plus tard, le roi Louis XIV et son état-major ne s'avisent de l'existence de cette forteresse. Le château est encore habitable, il est visible de la mer, et nous sommes encore et toujours en guerre contre l'Angleterre. Les navires anglais sont très actifs sur la route maritime où se trouve notre île. Pour s'assurer que les Anglais ne puissent pas s'installer dans le château abandonné de l'île-Dieu, le roi Louis XIV donne l'ordre de détruire notre château. Alors, bien évidemment, il n'a pas été complètement anéanti, sinon on ne serait pas en train d'en parler. Il semblerait qu'un vaisseau ait tiré au canon sur le mur ouest du château, jusqu'à l'abattre. Ce sont donc surtout les murs faisant face à la mer et les bâtiments d'intendance situés dans la cour qui ont souffert. La stratégie de Louis XIV se révélera payante. Devenu inhabitable, le vieux château n'intéressera plus les Anglais. Et ce, à moindre coût, hein, puisqu'on n'a pas eu besoin de détruire complètement le château. Quelques pierres du vieux château aient été utilisées par les îlets dans les années qui suivent sa destruction. Mais très vite, le pont-levis disparaît et les ruines deviennent inaccessibles. Cela permettra de préserver ce qui reste de la forteresse suffisamment pour qu'elle soit classée monument historique en 1890. Cela signifie que les historiens considèrent le vieux château comme un témoignage majeur de l'histoire locale et qu'il doit à ce titre être entretenu et valorisé. Les premières restaurations sont entreprises en 1895 et les dernières se sont achevées en janvier dernier. Aucune restauration n'a jamais visé à reconstruire le château, mais à le maintenir en état et à assurer la sécurité des visiteurs. La cour a aussi été dégagée dans les années 1960-1970 par une équipe de bénévoles menée par Maurice Essel, un de nos érudits locaux, qui a fait d'ailleurs beaucoup, beaucoup pour le château. Le vieux château est désormais accessible lors de visites guidées, ou en tout cas le sera à nouveau prochainement, espérons-le. Il est temps pour moi de vous quitter. Mardi prochain, vous retrouverez Annabelle qui vous présentera Jeanne de Belleville, la tigresse bretonne. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.